le soleil est là et il est bien là.
Qu'est-ce que tu veux boire ?
Je prendrai une bière, chérie.
Pour eux, les vacances, c'est le camping ou rien.
C'est chaud, hein ?
Radio Camping Paris.
Indispensable, la table de camping soutient les bouteilles d'apéritif.
On a organisé les glaçons.
Et un de nos soucis numéro un maintenant, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir ?
Tout l'été, du lundi au jeudi, de 19h à 20h. Bonjour à tous, j'entame avec vous une dernière semaine de camping sur les ondes de Radio Campus Paris. Dernière semaine d'apéro radiophonique avant le grand bain musical du mois d'août. Oui, à Radio Campus Paris, on est un peu comme beaucoup de Parisiens, on est des Aoussiens, je crois qu'on dit comme ça. On prend nos vacances à la fin de l'été, alors on va bientôt déserter les péniches, les quais, les terrasses pour aller buller je ne sais où, loin de la moiteur parisienne. À partir de la semaine prochaine donc, plus de Radio Camping, mais de la musique à 19h sur Radio Campus Paris pour que vous soyez vous aussi un petit peu en vacances. Mais en attendant, on tient bon, on vous a concocté une semaine aux petits oignons. Demain, Christophe vous parlera de surf, de littérature et du festival Greenpeace. Mercredi, Julien vous parlera de science. Et jeudi, comme toutes les semaines, on sortira du studio. Et pour la dernière, on a décidé de poser notre campement pas très loin d'ici pour une émission en direct de la place de la Bastille. Oui, oui, rien que ça. Bref, aujourd'hui, programme chargé également, l'air de rien. On vous parle théâtre, cinéma, documentaire. La culture vit tout l'été sur les ondes de Radio Campus Paris. Radio Camping Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur Radio Campus Paris. Notre invité du jour est un invité idéal pour la radio puisqu'il est surtout connu pour sa voix. Alors reste à voir s'il a des choses intéressantes à raconter bien sûr, mais a priori l'écouter ne devrait pas être désagréable et ça devrait même vous rappeler quelques souvenirs. Comédien doubleur qui enchaîne les blockbusters en tant que doubleur, c'est notamment la voix française de Tom Hardy mais aussi de Hugh Jackman, de Javier Bardem ou alors de Smaug dans Le Hobbit ou de Kai dans Kung Fu Panda. Bref, une voix de beau gosse qui n'est pas là pour déconner. Jérémy Covillot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes avec nous ce soir, eh bien, d'une part parce que le réalisateur de cette émission, Elliot, travaille aussi avec vous en ce moment au théâtre des Feux de la Rampe et c'est lui qui a proposé de vous inviter. Je dis mais bien sûr, invitons Jérémy Covillot. Et donc comme je disais, vous jouez en ce moment, enfin, vous avez terminé pour l'été,
pour mais
vous reprenez en septembre au théâtre des Feux de la Rampe, une pièce qui s'appelle Chinchilla. On en reparlera tout à l'heure. Et avant ça, bien sûr, avant de commencer votre interview, je voulais vous présenter Wesley. Wesley qui est avec moi en studio. Salut.
Salut Elsa.
Et toi, tu es animateur de l'émission Vrai Rap Français sur Radio Campus Paris.
Exactement.
Et toi aussi, tu es en pause estivale, alors tu reprendras.
Exactement, voilà. Je suis venu un petit peu goûter un petit peu d'autres horizons aujourd'hui avec toi.
Et du coup, aujourd'hui, tu n'es pas là pour parler de rap, mais tu nous parleras d'autres choses tout à l'heure. Et puis, pour maintenant, tu es là aussi pour discuter avec nous et poser des questions à notre invité.
Avec plaisir.
Alors, avant de parler de la pièce Chinchilla dont on parlera tout à l'heure, mm-hmm. on avait un peu envie de faire connaissance avec toi, Jérémy. Donc, tu es comédien aujourd'hui au théâtre, mais tu as aussi fait de la télé. Et un petit peu de cinéma.
Voilà, oui.
Et j'ai vu sur Wikipédia que tu as joué ton premier film à 11 ans. Enfin, si j'ai le calcul est bon, en tout cas sur Wikipédia.
Ouais, un peu plus tôt, oui. J'avais à peine 10 ans, en fait.
Donc c'était un court-métrage.
L'homme... Ouais, non, alors non.
Bah, voilà. Je me suis fié à ce que j'ai lu sur Wikipédia. Ouais, peut-être que c'était voilà.
En fait, mon tout premier film, j'avais 9 ans et demi, à peine 10 ans. C'était un Maigret, à l'époque, encore avec Jean Richard. Voilà, qui s'appelait Maigret, l'enfant de cœur, qui s'est tourné dans le Perche. Et voilà, donc j'avais le rôle principal de ce téléfilm à 9 ans et demi.
Comment on fait pour devenir acteur principal à 9 ans et demi ?
En fait, j'ai toujours voulu être comédien, depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Ça doit être la première fois que j'ai formulé ce souhait. Mon père faisait des affiches de films quand j'étais gamin. Il a notamment fait la plupart des affiches de films, des films de Belmondo. Il a bossé pour René Château, voilà. Donc je baignais là-dedans. Et c'est la rencontre avec Belmondo à l'âge de 6 ou 7 ans, sur le tournage du Professionnel, je crois. J'ai découvert, je me suis rendu compte que c'était un métier, quoi, que jouer était un métier. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, faut que je fasse ça. Quoi. Voilà. C'est un métier, quand j'ai compris que c'est un métier qui me permettrait toute ma vie de continuer à jouer aux gendarmes et aux voleurs, aux cow-boys, aux indiens, et d'être pirate, chevalier, pompier, flic, voyou, etc. Voilà, je me suis décidé.
Donc au départ, ce qui t'a attiré, c'était le cinéma ou alors tu pensais aussi au théâtre ?
J'étais plus branché cinéma et d'ailleurs je viens à la base plus du cinéma et de la télévision. Le théâtre est arrivé plus tard, même si à l'âge de donc 9 ans, on vivait en Normandie à l'époque. J'ai insisté pour que mes parents m'inscrivent à un cours de théâtre. Et donc à l'âge de 9 ans, je me suis retrouvé au Conservatoire d'art dramatique de Vernon, où j'ai travaillé toute l'année Cyrano de Bergerac, où j'ai en fin d'année joué Cyrano de Bergerac à 9 ans quasi intégralement. Et c'est là qu'un réalisateur, donc le réalisateur du Maigret en question, Michel Subiela, m'a repéré, vu que ça se tournait dans la région, et m'a proposé le rôle principal de ce film. Voilà. Et après, le virus était là, et j'ai pas voulu... j'avais trouvé mon métier, j'avais trouvé ma voie, et j'ai pas voulu démordre de ça. Voilà.
Donc tu avais du cinéma, des téléfilms, du théâtre.
Beaucoup de téléfilms, principalement des téléfilms, des séries. Un peu de cinéma, mais bon, voilà. Dans un premier temps, ça a surtout été de la télé. Et le théâtre, j'ai vu que je venais pas du théâtre. Le théâtre est venu plus tard, et maintenant, c'est quelque chose auquel je me consacre beaucoup. Voilà.
C'est un CV. Moi, je regardais long comme le bras, et encore. Je suis gentil. Et du coup, il y a des choses. J'ai l'impression que tout est arrivé un peu dans ce que tu dis, arrivé un petit peu à toi directement.
Ouais, enfin, ça s'est pas fait sans mal. Hein. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai tourné des séries qui ont plutôt bien marché d'ailleurs à l'époque, des séries pour les gosses, pour les jeunes, Les Six Compagnons, La Famille Fontaine, Seconde B, des choses comme ça.
Ah, Seconde B.
Ouais, Seconde B. Seconde B, c'est assez particulier parce que tout le monde est persuadé de m'avoir vu dans toute la série. Mmh. Je n'ai fait que les deux premiers épisodes.
D'accord.
Mais j'étais quand même bien dans la bande.
Ah, mais désolé, j'ai raté Seconde B. C'était
quoi ? France 2, c'était exceptionnel. C'était
oui,
une bande.
Oui, c'était une espèce de. C'était l'époque de Hartley. Cœur à vif.
Exactement. Ah, je regardais Arc Cœur à vif.
C'était un peu c'était l'antithèse de tout ce que faisait AB Productions, c'est-à-dire qu'on était plutôt ancré dans le réalisme.
Exactement.
On parlait de sujets de société qui concernaient vraiment les lycéens à l'époque. Je me suis retrouvé là-dedans et à 16 ans, j'ai arrêté mes études. Enfin, oui, j'ai arrêté mes études. J'ai jamais été un grand fan de l'école, de toute façon. Et pour me consacrer uniquement au métier de comédien. Et donc, par la force des choses et voulant être indépendant, je suis aussi à côté devenu barman.
D'accord.
Et j'ai bossé dans la restauration de nombreuses années pour m'offrir le luxe de rester comédien et de faire mon chemin en tant qu'acteur.
Malgré tout ce qui a été fait, t'en vivais pas pleinement justement de ce métier, c'est ça ?
Ça dépendait, il y avait des années qui étaient plutôt fast, des années qui étaient, ça a toujours été assez irrégulier, mais je continuais à pouvoir gagner ma vie en étant barman, notamment à la Favela Chic, au Café du Trésor à l'époque, avec Alain Attal qui est maintenant producteur, qui a les productions du Trésor. Je bossais avec des potes beaucoup qui savaient que ma première vocation était comédien et qui comprenaient que quand j'avais besoin de gagner 3 sous me prenaient dans leur resto, mais ça fait seulement quelques années que je vis totalement de mon métier, et ce beaucoup grâce au doublage et aux voix.
D'accord.
Alors le doublage, c'est venu finalement un peu plus sur le tard, comment
oui,
t'es tombé dedans?
Ça a commencé il y a 8 ans à peu près, c'est un ami à moi, Hervé Ray, qui est comédien déjà à la base, que j'avais connu sur l'adaptation d'Hérital de Cavana par Marcel Bluval pour la 2 à l'époque. On avait 14-15 ans avec Benoît Magimel, etc., etc. Et on est resté potes, et lui, comédien, faisait pas mal de doublage. C'est le contraire de ma voix, il a une voix très légère, c'est la voix de Peter Pan notamment, autres.
Ouais.
Et on ne s'était pas vu depuis quelques années. C'est vrai que ma voix s'est placée il y a une dizaine d'années assez grave. Et il m'a entendu un soir dans un truc. Il m'a appelé le lendemain en disant « Écoute, qu'est-ce que c'est que cette voix ? Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Ta voix avait changé.
J'ai toujours eu une voix plutôt grave, mais il y a une dizaine d'années, j'ai joué une pièce pendant assez longtemps avec Marthe Villalonga, et se retrouver au théâtre tous les soirs et pas s'esquinter la voix m'a forcé à la placer.
D'accord.
Et donc je l'ai placée grave. J'ai trouvé ma voix, finalement. Et donc, il m'a proposé de faire du doublage, et c'est venu assez rapidement, et je me suis assez rapidement retrouvé sur des choses assez importantes. Voilà, ça s'est expliqué par le fait que un très bon pote à moi qui est dans le doublage m'a dit que j'étais tombé, j'avais la bonne voix au bon moment, au bon endroit.
Parce qu'il cherchait une voix grave comme la tienne.
Il n'y avait plus vraiment de voix grave pour les 35-40 ans. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance de tomber à ce moment-là.
C'est vrai, quand on t'écoute, et je pense que derrière nous écoute aussi, ça sonne comme une évidence. Et du coup, on se dit, on a le casque, nous.
C'est une chance pour moi.
Tu as une voix de conteur. Est-ce qu'il y a. T'as des concurrents directs dans le doublage? Par exemple, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Doudou Masta qui est.
Oui, mais Doudou, on a pas la même voix. On est tous les deux dans des voix graves. Il y en a d'autres, évidemment. Voilà, il y a Boris Rélinger, il y a Gilles Morvan, il y en a quelques-uns comme ça. Mais on est dans la catégorie voix grave, mais on a chacun une particularité. Voilà, moi j'ai un grain un peu particulier. Qui fait que je ne peux pas tout faire, mais après c'est aussi ça dépend du choix des directeurs artistiques, des majors pour qui on travaille, il n'y a pas réellement de concurrence, on s'entend tous très bien, on est potes, chacun sa chance et chacun son emploi, quoi.
Est-ce que tu sais comment ta voix est choisie? Il faut qu'elle corresponde à la voix du comédien d'origine?
Aujourd'hui, le doublage se fait beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque dans les années 70-80 où on se foutait un peu de la voix originale et puis il y avait moins de monde, surtout il y avait moins d'acteurs qui faisaient du doublage. Donc on distribuait les rôles un peu comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un souhait de la part des clients, enfin des majors, de la Fox, de Warner, etc., de se rapprocher le plus possible de la voix originale de l'acteur pour
Parce que moi j'ai écouté, du coup je me suis amusée à écouter les voix originales des acteurs que tu doubles, notamment Tom Hardy.
C'est le principal, Tom Hardy.
Voilà, Tom Hardy, c'est celui que tu doubles plus, qui a une voix beaucoup plus aiguë, il a une voix grave quand même,
Il a une voix particulière, Hardy, parce que déjà il change de voix quasiment à chaque film, et il a des graves aigus. He's talking a bit like that, you know. Il a une voix très anglaise avec des trucs un peu particulier, donc je dois m'adapter en fonction de son travail. Par exemple, il n'a pas du tout la même voix sur un film comme Enfant 44 et sur The Revenant ou Mad Max. Sur The Revenant ou Mad Max, il est vraiment, il parle comme ça, il a quelque chose de très grave. Je m'appelle Max, sur Enfant 44, justement, il parle un peu plus comme ça, il a quelque chose de très, c'est un côté éraillé. Mais c'est un acteur extraordinaire, et extrêmement intéressant et passionnant à doubler, justement.
Celui que j'ai trouvé, que Hugh Jackman, il avait une voix grave comme la tienne à peu près, et Javier Bardem aussi est connu pour avoir une voix assez grave.
Ouais.
Mais les autres, je trouvais étonnamment qu'ils avaient une voix plutôt plus aiguë que la tienne.
J'essaie de m'adapter, j'essaie d'être plus léger, de m'adapter vraiment. J'écoute vraiment l'original et j'essaie de, moi ce qui me passionne dans le doublage, c'est justement d'essayer de je suis un amoureux de la VO à la base, évidemment, donc j'essaie de rendre justice autant que faire se peut et au maximum à l'acteur original. Mais Hugh Jackman par exemple, c'est particulier, je l'ai doublé sur quelques films, et j'ai eu la chance de le doubler sur le dernier Wolverine. À la base c'était pas moi qui doublais Jackman sur Wolverine depuis le début, c'était Joel Zaffirano. Il y a eu des choix qui ont été faits sur le dernier, sur Logan, où finalement j'ai pris la relève. Moi, c'était un cadeau pour moi, étant donné que c'est un de mes. Enfin, je suis un geek, à la base. Donc, j'ai grandi avec les comics et Star Wars, etc. etc. Donc, Wolverine étant un de mes super-héros préférés depuis gamin, ça a été un cadeau de pouvoir le doubler sur Logan.
Et le travail de doublage, il se fait comme si tu préparais un rôle au théâtre ou au cinéma en termes de jeu, ou c'est une autre approche?
C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est encore une autre approche, c'est un exercice de style particulier. Le préparer un rôle au théâtre, préparer un rôle au cinéma, à l'image, c'est déjà deux boulots assez différent. On n'aborde pas les choses de la même manière, on ne construit pas les choses de la même manière. Le doublage se fait de manière assez instinctive, c'est-à-dire qu'on ne voit pas toujours le film avant. Et parfois, on se retrouve en studio et on voit séquence après séquence, on double.
Donc, tu ne sais pas forcément ce qui se passe après, quoi.
Si,
tu n'as pas lu le scénario.
On nous explique l'évolution de la chose, mais parfois, on n'a pas vu le film avant et on attaque le truc comme ça. Il faut être. Faut être assez réactif.
D'accord.
Et très à l'écoute.
Pour ceux qui ne te voient pas, je ne sais pas, Elsa, tu seras d'accord avec moi. Si un jour tu fais la voix de Robert Downey
D'un junior. Non, j'ai pas cette chance.
Il y a un air quand même. Hein.
C'est gentil. Ouais. Bah, merci beaucoup. Ça, je le prends vraiment comme un compliment. Mais
tu vois, Sherlock Holmes.
Non, voilà. C'est...
On l'a trouvé. Ouais, bah... Je te pistonnerai à l'occasion.
C'est gentil. Je te remercie.
Tu disais justement que tu es un geek, toi. Donc, ce genre de films-là, c'est les films que tu vas voir naturellement au cinéma.
Oh,
c'est des. T'aimerais jouer un jour avoir un rôle comme ça ?
Évidemment, mais bon, après, voilà, on va se calmer. C'est pas forcément.
Parce que toi, dans les films que t'as fait, les rôles que t'as fait, c'était pas forcément des films d'action.
Non, déjà, parce qu'on en fait assez peu en France. J'ai eu la chance de tourner en Angleterre et aux États-Unis dans certains trucs, notamment, voilà, moi j'ai eu la chance de jouer dans l'adaptation de Henri V de Shakespeare par Sam Mendes pour la BBC, donc avec John Hurt, Tom Hiddleston. Et bon, beaucoup d'acteurs de la Royal Shakespeare Company. Donc, moi qui suis passionné de Shakespeare, avoir l'occasion de jouer Shakespeare en anglais, en live, en tournage avec les spécialistes, ça a été un cadeau. Maintenant, jouer un super-héros comme Wolverine ou le roi des singes, César, dans La planète des singes, ou Bane dans Batman, ou Doctor Strange, enfin j'en passe. Moi, j'ai la chance en plus de me retrouver souvent sur des gros blockbusters. Qui sont des films que, évidemment, j'ai envie d'aller voir au cinéma. Et donc, ça me permet d'aborder ces personnages-là de manière un peu détournée, mais malgré tout, de les incarner un petit peu.
Voilà. Tu as doublé aussi le rôle de Kai dans Kung Fu Panda, je le disais tout à l'heure.
Ouais.
Tu avais d'autres dessins animés ou pas ?
Oui, j'ai fait. Le tout premier que j'ai fait, c'était Planes, chez Pixar, où je faisais le Rip Slinger, le méchant. Et j'ai fait Monstre Academy, j'ai fait Turbo, j'en ai fait Les 5 légendes.
Tu fais qui dans Monstre Academy ?
Je fais le présentateur des Jeux de la Peur, l'espèce de coq avec des cornes qui parle comme ça, c'est les Jeux de la Peur. Hein.
Voilà. D'accord, je réponds.
Voilà. Les dessins animés, c'est assez génial parce que c'est, je pense surtout à mon petit garçon, Lucien, qui a aujourd'hui 6 ans et demi, mais par exemple Planes. Ça a été son premier film au cinéma, il avait à peine 3 ans.
C'est énorme.
Je lui avais expliqué qu'au cinéma, il ne faut pas parler, c'est pas comme à la maison. Et j'avais dit, tu vas voir, l'avion méchant, c'est la voix de papa. Alors il m'avait dit, oui, je me tais. On est dans la salle de cinéma, ça n'a pas loupé. Quand je suis arrivé, salut Dusty, c'est moi, Rip Slinger. Il a fait, c'est papa. Il s'est mis à hurler, enfin bon, c'était assez rigolo. Mais il est, quand je l'emmène voir Kung Fu Panda au cinéma.
C'est énorme.
Et que je fais le général Kai, le plus grand guerrier de toute la Chine. Et lui, ça l'éclate. Quoi. C'est très rigolo. Quand j'ai fait Smaug, le dragon, le Hobbit, pareil. Et là, il était assez impressionné. Je suis un héros pour les copains de sa classe.
J'ai pas 6 ans, mais même pour.
Non, mais ça m'éclate quand je fais des dessins animés. Je pense surtout à mes gosses.
Et tu joues souvent le rôle du méchant. Enfin, t'as la voix d'un méchant.
Oui, j'ai une voix qui se prête un peu à ça, même si je suis un très gentil garçon.
Comment on fait pour faire une voix de méchant ? C'est naturellement parce que t'as une voix grave ou alors...
Ouais, et puis après, il y a quelque chose à trouver. Il faut chercher des trucs un peu. Mais encore une fois, en doublage, on se base beaucoup sur l'original et les acteurs originaux le font très bien. Il suffit juste d'arriver à se glisser dans leur pompe.
Il y a quelques années, tu étais comédien, tu travaillais dans un bar aussi pour combler les fins de mois. Aujourd'hui, c'est le doublage principalement qui te fait gagner ta vie. Aujourd'hui, t'es quoi ? T'es plus doubleur que comédien, tu vas dire ?
Non, justement, c'est assez drôle parce que le fait de faire beaucoup de doublage, donc de mieux gagner ma vie, ça détend à un moment, c'est-à-dire qu'on arrive sur les castings pour les tournages un peu plus détendu, un peu moins pris à la gorge et voilà. Et finalement, plus on est détendu, plus les choses, j'ai l'impression que plus les choses viennent à vous naturellement entre guillemets. Donc depuis que je fais du doublage, les choses s'accélèrent aussi au niveau tournage, au niveau théâtre, etc. Donc ça fait disons une dizaine d'années que les choses vont de mieux en mieux et aujourd'hui je suis très content.
Top. We'll be right back.
Heliocentrix de O Brother sur Radio Campus Paris. Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h. Trois questions à se poser avant de se mettre en couple. Avez-vous au moins une heure par jour à consacrer à votre partenaire pour le nourrir, le nettoyer et jouer avec lui? Êtes-vous disposé à le laisser gambader un moment dans la maison tous les jours? Êtes-vous prêt à l'emmener en vacances ou sinon trouver quelqu'un qui saura s'en occuper? Il y a les couples qui font avec, ceux qui font sans, ceux qui font semblant et ceux qui essaient de faire autrement. Voilà le petit topo de la pièce Chinchilla qui reprendra au Feu de la Rampe en septembre et dans laquelle vous jouez aussi, tu joues, j'avais noté, vous jouez, mais on se tutoie. Dans laquelle tu joues, Jérémy. Alors ça parle de quoi, Chinchilla? C'est une histoire de couple,
alors,
si j'ai bien compris.
Oui, alors déjà je précise qu'on prendra à partir du 23 septembre les samedis et dimanches à 18h jusqu'au 31 décembre. Dans un premier temps, on verra par la suite si tout va bien. On a joué depuis, on joue depuis mi-avril, donc au Feu de la Rampe, là on s'est arrêté pour l'été. La pièce, déjà c'est une pièce d'Emmanuel Robert Espalieux. Je fais un tout petit peu le
bien
topo,
sûr,
je vais parler
bien
de mes copains quand même.
Vas-y.
C'est une pièce d'Emmanuel Robert Espalieux, mise en scène par Bruno Bannon, avec Lydia Cherton, Roger Comté-Bardot, Céline Perra, Estelle Borfiga et moi-même. Voilà, alors la pièce, c'est une comédie presque romantique, on va dire. C'est la rencontre de deux couples qui n'ont que tout oppose, enfin qui n'ont vraiment, qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Un couple plutôt successful, un couple plutôt en lose. Je fais partie du couple en lose, ce qui moi m'amuse beaucoup. Et voilà, c'est deux couples donc qui ont chacun leurs problèmes, qui ne s'en rendent pas forcément compte, et leur rencontre particulière dans un endroit particulier va les révéler à leurs problèmes, et à un moment il va falloir se regarder en face et se demander si effectivement l'herbe est plus verte chez le voisin ou pas, voilà, et régler les problèmes ou pas. Donc il y a un fond assez comme toute comédie, un fond assez tragique, enfin très ancré dans le réel, et voilà, des problèmes que beaucoup de couples sont confrontés. Mais par-dessus tout ça, il y a le ton de l'auteur, Emmanuel Robert Espalieux, qui arrive à désamorcer tout ça, à mettre une couche d'absurde, entre guillemets, mais c'est l'absurde du quotidien, c'est l'absurde de la vie. On se retrouve face à des personnages très marqués, mais très réels. Et voilà, donc je peux pas trop en dévoiler, parce que toute la pièce tourne autour de ça, je veux pas spoiler. Mais c'est une super, enfin c'est un texte absolument génial. C'est un cadeau pour des comédiens de jouer ce texte. On a une mise en scène de Bruno Bannon très originale, très inventive. Et puis j'ai la chance de jouer avec des gens que j'aime énormément, avec des amis. Ça vient d'une envie commune de travailler ensemble aussi. Bruno et moi, on a monté notre boîte de production Break a Leg pour coproduire la pièce avec le théâtre. C'est la concrétisation d'un truc qui nous traîne depuis longtemps, d'une envie de. On a déjà travaillé ensemble avec Bruno, avec Roger, etc., etc. Mais on a voulu concrétiser la chose, donc faire ça dans les règles.
C'est un projet commun, et on n'est pas venu te chercher.
C'est un vrai projet commun. Non, pas du tout. C'est une envie commune de travailler ensemble, et on a en plus la chance de travailler sur ce texte qui est formidable. Voilà.
Et pourquoi Chinchilla?
C'est toute
Quel
la.
Rapport.
Il faut venir voir la pièce pour ça, parce que le chinchilla, c'est une symbolique. Chacun cherche son chinchilla et le trouve ou pas. Voilà. Mais je veux pas trop. Enfin voilà, c'est justement. On essaie d'entretenir dans toute la communication qu'on a sur la pièce. On essaie d'entretenir ce mystère-là. Pour savoir ce que veut dire chinchilla, il faut voir la pièce et vous le trouverez, vous le trouverez pas. Voilà.
Du coup, tu es sur plusieurs terrains continuellement.
Oui, c'est ça que j'aime.
À un moment donné, tu vas te dire peut-être que je me focus sur une seule chose, peut-être que sur le doublage ou que sur le théâtre.
Non, pour l'instant, le doublage, j'ai attaqué le doublage vraiment comme quelque chose d'en plus, on va dire,
ouais.
Qui a pris beaucoup d'importance dans ma vie professionnelle. Et je m'éclate, moi, je m'amuse.
D'accord.
Comme un fou. Surtout voilà, quand je fais Negan dans Walking Dead ou des rôles comme ça, Étant donné qu'on en parlait, j'ai pas forcément l'occasion d'aborder ces rôles-là dans ma vraie vie d'acteur. Bah, pouvoir me plonger là-dedans, c'est assez génial. Mais me focaliser sur une chose en particulier, non, pas pour l'instant. En tout cas, j'ai pas envie pour l'instant. J'arrive à tout concilier. Et c'est aussi pour ça que j'aime ce métier.
Sans faire de psychologie de comptoir, t'as l'air passionné quand tu parles de théâtre, un peu plus posé justement.
Parce que je suis en plein dedans en ce moment. D'accord. Et que encore une fois, c'est quelque chose de relativement nouveau, entre guillemets. J'ai abordé le théâtre de manière très professionnelle depuis seulement quelques années.
D'accord.
Et je me rends compte à chaque fois que c'est un terrain de jeu absolument dément. Et il y a un véritable espace de liberté. Il y a une mise en scène, il y a une direction évidemment, mais. Puis il y a ce contact immédiat avec le public, il y a quelque chose. Moi, je découvre encore. Tant que je m'amuse, tant que je m'émerveille tous les jours, j'y vais à fond. Et voilà. Mais c'est vrai que le théâtre, il y a quelque chose d'assez particulier, ouais, d'immédiat. Je suis un traqueur de folie. Tous les soirs avant d'entrer en scène, j'ai mal au bide, je suis pas bien. Je mets 10 secondes avant d'entrer en scène, je me dis, mais pourquoi je m'inflige ce truc? Pourquoi je m'inflige ce mal physique? Et puis, je mets un pied sur scène et je sais pourquoi je suis là. Voilà. Tout s'envole et je suis chez moi et je suis bien et je suis heureux. Et voilà, c'est assez formidable. Voilà.
Et la comédie, c'est un style que tu apprécies particulièrement?
Je l'apprécie.
T'avais déjà testé un peu?
Oui, mais je l'apprécie d'autant plus que, avec mon physique et ma voix, on n'a pas forcément tendance à me donner des rôles drôles, en tout cas des rôles de gentil ou des rôles de loser. Voilà, je fais souvent les méchants, je fais souvent les sombres, les. Voilà. Et jusqu'ici, à part quelques exceptions à la télévision, au cinéma, c'est au théâtre que j'ai trouvé des rôles qu'on ne me donnerait pas d'habitude. Le rôle dans Chinchilla, par exemple, n'est pas un rôle qu'on me donnerait comme ça, de manière évidente. J'ai envie d'aller vers des contre-emplois, j'ai envie de faire de la comédie. Moi, j'ai envie de faire le con, j'ai envie de m'amuser et je n'inspire pas forcément toujours ça chez les gens qui ne me connaissent pas bien, en tout cas. Mais tous mes potes me disent, mais faut que tu fasses de la comédie, attends, machin, parce que j'aime bien me marrer.
Mais c'est vrai que quand on entend ta voix et quand on voit les films dans lesquels tu fais du doublage, etc., ouais. On se dit, oula, il a pas l'air commode, lui, j'ai un petit peu peur.
je suis gentil, je vous rassure, je suis gentil.
Écoutez-moi, mais ça va, je me suis détendu depuis tout à l'heure.
Je vous promets. Mais par exemple, en doublage, j'ai aussi l'occasion de doubler Seth MacFarlane. Lane, par exemple, dans Albert à l'Ouest, qui est une vraie comédie. Là, j'étais pas dans la voix grave, j'étais plutôt comme ça, tu vois, tout le temps. Le mec est une mitraillette, en plus, c'est un bonheur à doubler, mais voilà, je fais ce métier pour faire plein de choses différentes et pour ne pas justement qu'on me mette dans une case. Après, on est en France, les gens ont un peu moins d'imagination, je pense, que les anglo-saxons, par exemple. En Angleterre, aux États-Unis, quand t'es acteur, on te file un rôle et puis démerde-toi et c'est à toi d'être drôle ou pas ou d'être méchant ou machin. En France, voilà, on aime bien mettre les gens dans des cases. Moi, avec ma voix et mon physique, effectivement, j'ai pas une tête de gentil, voilà, et une voix de gentil non plus forcément. Mais je ne demande qu'à m'amuser, à faire le con. Donc
c'est un appel. Voilà.
Oui, c'est un appel. Oui, je lance un appel.
Et pour les bronzés 4, Jean-Claude Duss.
Mais voilà, par exemple, un Junio, voilà, je sais pas. Mais d'ailleurs, mon rôle dans Chinchilla aurait tendance à se rapprocher d'un Junio. J'avais attaqué on a créé la pièce. Je m'étais fait une petite moustache. Ouais. Voilà, et c'est justement ne pas aller vers l'évidence et essayer de casser un peu les codes dans lesquels on veut m'enfermer, entre guillemets. Enfin, j'exagère, mais voilà.
Du coup, ça reprend, Chinchilla, ça reprend le 23 septembre,
c'est ça? À partir du 23 septembre, oui, tout à fait. Les samedis, dimanches à 18h.
Jusqu'au 31 décembre.
Jusqu'au 31 décembre, pour l'instant, on verra si on continue par la suite, j'espère, voilà, ce genre de spectacle sans tête d'affiche il faut les faire exister longtemps avant que voilà, il faut créer le buzz, le bouche à oreille, on compte énormément là-dessus et ça marche bien. Jusqu'ici, on a eu une première saison qui s'est très bien passée. On attend la rentrée avec impatience dans une version plus longue qui a été retravaillée par l'auteur, plus intéressante, enfin qui approfondit certaines choses dans la pièce. On a hâte de reprendre et de voir ce que ça va donner.
Voilà. Et côté doublage, il y a des projets en cours,
il y a plein de choses dont je ne peux pas malheureusement forcément parler. On va attaquer la, On va attaquer la saison 8 de Walking Dead à partir de octobre ou novembre, hein, où là, bon, j'ai la chance de doubler Jeffrey Dean Morgan. Donc dans le rôle de Negan, mmh. Il va y avoir la sortie donc, de La Planète des Singes 3 le 2 août, je crois,
oui.
Dans laquelle je double Andy Serkis, donc César, le roi des singes. Il y a plein de choses en préparation. Mais malheureusement, là, on est tenu par le secret. Mmh. Je signe des clauses de confidentialité dans tous les sens, donc je ne peux pas parler de tout, mais il y a de très belles choses et des trucs très excitants qui arrivent en doublage. Voilà.
Ce qu'on peut répéter encore une fois, c'est que Chinchilla au feu de la rampe, c'est à partir du 23 septembre,
voilà.
Pendant tout l'automne en fait.
Oui, ça. Toute la saison d'automne, à partir du 23 septembre, les samedis dimanches à 18h, jusqu'au 31 décembre au Théâtre des Feux de la Rampe. Voilà.
Merci beaucoup Jérémy Covillo d'être venu dans cette émission. On continue Radio Camping. Alors comme Radio Camping, c'est un savoureux mélange des genres, je vous propose maintenant de découvrir un conte sonore réalisé par Camille sur Simone, sa grand-mère. Ça s'appelle Simone et les orphelines.
Voici l'histoire de Simone et les orphelines.
Chapitre 1. Porté par le vent.
Notre histoire commence en 1930 à Saint-Gildas-de-Ruys, dans une communauté qui s'appelait les Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Une voiture était venue la chercher, une superbe voiture. Ça devait être une Mercedes. Et on l'a déposée là, elle avait 3 ans. Elle s'appelait Simone. Quand elle était gamine, elle était très chétive et asthmatique. L'air iodé de Saint-Gildas n'était pas bon pour sa santé. À 5 ans, donc, les religieuses l'ont dirigée vers Rochefort-en-Terre. Là-bas, elles étaient des orphelines aussi, et comme cette communauté était très pauvre, il fallait qu'elle travaille. Et c'est pour ça que toute petite, Simone a appris à coudre, à broder et à monter des petites chemises, des petites brassières et des combinaisons. C'est comme ça qu'elle a appris, vous savez. Elle était sur son petit banc, comme ça, à côté de la religieuse.
Chapitre 2. La vie à Rochefort-en-Terre.
Tous les jours, les orphelines se levaient à 6h30. Elles allaient déjeuner. Elles avaient de la soupe. On dit même que c'était de la soupe à la souris. Et elles buvaient une cuillère d'huile de foie de morue.
C'est pas bon.
Après, elles faisaient leur lit, rangeaient le réfectoire et la grande salle. Et là, eh bien, il y en a qui allaient à l'école. Mais Simone, elle, allait dans un lieu qu'on appelait le louvoir pour apprendre à coudre. À midi, elle déjeunait des lentilles, des pommes de terre ou des haricots nature. Et chaque jour, entre 1h et 2h, elle faisait une grande promenade et elle chantait plein de choses, des chansons un peu scouts, pour marcher. Alors quelquefois, les religieuses disaient:
c'est dommage, il va pleuvoir. Écoutez les enfants, il faut prier.
Elle les faisait prier, grand Saint-Médard.
Grand Saint-Médard, toi qui fais la pluie, fais, je t'en supplie, qu'il pleuve plus tard. Et s'il doit pleuvoir, cache ton arrosoir jusqu'à demain soir.
Puis l'après-midi, c'était pareil. Elle se remettait au travail. À 4h, elles avaient une tartine de pain avec de la compote. Vous savez, c'était plutôt mouillé qu'autre chose, mais bon. Puis elles étaient libres. Elles lisaient, elles allaient dans la cour, et le soir, le bénédicité, le repas, et à 8h, elles étaient couchées.
Chapitre 3. La tâche.
À 10 ans, Simone était déjà à la tâche. Vous savez ce que c'est, la tâche ? Quand il y avait beaucoup de travail qui arrivait des grands magasins parisiens, Maison du Louvre, Thiriez, tout ça, il y avait une grande dame, une religieuse. Les filles étaient appelées devant son bureau. Elle disait:
aujourd'hui, il faut que vous fassiez 8 broderies dans la journée.
Autrement, elle n'était pas vraiment punie, mais presque. Et malheureusement, il y en avait qui ne pouvaient pas le faire, parce qu'elles avaient, vous savez, les mains trop moites. Du coup, Simone faisait leur part. De ce côté-là, elle n'a jamais eu de problème.
Chapitre 4. Les bêtises de Simone.
Simone était un peu une petite fille garçon manquée. Quand elles allaient dans les bois se promener, elles n'étaient pas la dernière à grimper dans les arbres, vous savez. Et bien sûr, un jour, elle déchira son tablier. On la punit. Les religieuses ont été chez le boulanger chercher un pantalon de garçon et Simone a été habillée en garçon toute une journée. C'était sa punition. C'est idiot comme truc, mais elle, ça la faisait rire. Une autre fois, dans la cour, il y avait des petits papiers. Et il ne fallait pas un seul papier par terre. Une religieuse qui avait vu un papier avait dit à Simone
« C'est sûrement toi qui as mis le papier. »
Et elle disait
« Mais non, non, c'est pas moi. »
Alors bon, finalement, pour la religieuse, c'était bien elle. Et du coup, pendant toute une journée, Simone a eu une langue en feutrine collée autour de la bouche, parce qu'elle était
une menteuse.
Ce n'était pas méchant, mais vous voyez, tout était marqué quand même.
Chapitre 5. Retour à Saint-Gilda.
À ses 13 ans, Simone eut un gros problème. Elle avait une glande énorme qui pendait dans le cou, sous le menton. Les religieuses ne savaient pas trop ce que c'était. Elles la soignaient avec de l'iode, elles tamponnaient tous les jours. Pendant un an, elle resta comme ça, avec un gros abcès. Jusqu'au jour où une religieuse infirmière dit
« Bah écoute, je crois qu'il va falloir le percer. »
Une aiguille a flambé avec de l'alcool à 90 degrés et elles ont piqué. Piqué ! Puis alors là ? Tout ça se finit à l'hôpital avec un chirurgien qui recoue Simone avec un boyau de chat. Pas de doute, Simone est victime d'un manque d'iode dans l'organisme. À 14 ans, la voilà donc de retour dans son orphelinat d'origine à Saint-Gilda-de-Ruys, en face de la mer. C'était une communauté beaucoup plus riche. Il y avait un parc, avec tous les fruits, tous les légumes, et il y avait même des vaches et des cochons. À Saint-Gilda, elles allaient à la messe à 6h30 tous les jours, avant déjeuner. Et même à l'église, elles n'étaient pas mélangées aux autres. Elles étaient dans un coin, les orphelines.
C'est dur, hein, tout ça.
Pourtant, elles n'étaient pas responsables de ce qu'avaient fait leurs parents. Après, elles travaillaient. Simone cousait, et il y en avait d'autres qui allaient dans les jardins ou dans les champs pour ramasser les pommes de terre, par exemple. Simone et ses camarades de couture cousaient les robes pour les autres filles. Il y avait une noire pour l'hiver, une bleu marine pour la mi-saison et une robe écossaise légère pour l'été. Et toutes avaient un col Claudine, si bien que dans la rue, tout le monde les reconnaissait. Durant ces années d'orphelinat, Simone et les filles ont aussi appris à lire, à écrire et surtout les bonnes manières. Elles apprenaient à tenir une maison, à servir à table, à utiliser les bons couverts et à bien s'essuyer la bouche après chaque gorgée d'eau.
Chapitre 6. Le temps du départ.
Vers ses 15 ans, vint un moment où Simone s'interrogea sur ses parents. Chaque année, elle voyait des filles partir à 16 ans ou à 18 ans et elle s'intriguait.
Mais pourquoi est-ce qu'elles partent ?
Elle se posait plein de questions. Et une fois, elle demanda à Mère Marie-Paul.
« Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis là. »«
Bah, pourquoi tu es là ? Parce que ton père, il t'a mendié dans la rue. »«
Mendié ? Mais je croyais que j'avais pas de père. »
Et la vie à Saint-Gilda continua. Pendant la guerre, des centaines d'enfants furent recueillis et Simone vit l'abbaye changer. Les Allemands occupaient plusieurs bâtiments et avec eux, les filles avaient même des bonbons. Au début de l'année 1945, on l'appela au parloir et la mère supérieure lui dit
« Bon, écoute, il est temps pour toi de partir. »«
Pourquoi vous voulez que je parte ?»«
Ton contrat est terminé. »
La hantise de Simone, c'était ça.
« Mais je vais aller où ?»
La mère supérieure lui expliqua qu'elle avait une petite sœur qui venait de naître et qu'elle irait s'en occuper. Elle quitta ainsi l'orphelinat avec son petit baluchon. Direction Questembert.
C'était « Simone et les orphelines », un conte documentaire de Camille Alperin, d'après le témoignage et l'histoire de Simone Manac.
Merci Camille pour cette belle histoire. Camille Alperin qui réalise pour Radio Campus Paris « Les passants sur scène », une chronique documentaire d'un été sur le quai, sur les quais que vous pouvez retrouver un lundi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris et en podcast bien sûr sur radiocampusparis.org.
Radio Camping Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur Radio Campus Paris.
Ça y est, Wesley, c'est à toi.
C'est mon moment.
C'est ton moment. On t'écoute tous.
Ça va être un peu deux salles, deux ambiances hein, ce soir, vous allez voir. Hein,
on est avec toi.
Très bien. J'ai un peu le trac, hein, je vais vous dire. Alors, avant toute chose, il faut savoir que ce n'est jamais facile hein, d'écrire une chronique et j'en sais quelque chose. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est la première. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire l'article sur l'angoisse de la page blanche, mais je dois vous avouer que la peur du bide me guette. Le malaise après une blague ratée, c'est ma hantise. Un exemple. Qu'est-ce qui fait toin-toin ? Elsa, t'as la réponse ?
Non.
Un tanard. Voilà. C'est donc ouais. Ça le malaise non, mais moi, que je redoute tant.
C'est mon style de vanne, moi.
Bah, merci Jérémy pour le soutien. Enfin bref, merci Elliot pour les applaudissements.
Il applaudit.
Enfin bref, de quoi j'ai envie de vous parler, à vrai dire, je me pose encore la question, hein. Je l'écris en même temps dont je parle. C'est la fin de la saison, on est sur Radio Camping et j'ai un stock de blagues à liquider. Donc rassurez-vous, je vais être raisonnable et j'en garde juste une blague pour la fin si vous me l'autorisez. Avant ça, je voulais partager avec vous les faits marquants du premier semestre 2017. On est le 24 juillet, et là, on est tous censés dire « Waouh, ça passe trop vite !» Donc, on va la refaire. On est le 24 juillet.
« Waouh, ouais, ça passe trop vite !»
Bref, ça c'est un autre malaise. Vous avez Bref, tout comme moi, vous avez respecté aucune de vos résolutions de cette année. Vous étiez promis de ne pas voter Macron, et vous l'avez fait. Ah, Macron, parlons-en, tiens. Le beau gosse du Faubourg Saint-Honoré est aux manettes depuis un peu moins de 100 jours. Vivement que ça se termine, ce n'est que mon avis perso. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment la polémique qui enfle sur les APL. Une baisse de 5 euros par mois. Ouais. Pour les plus pauvres, c'est donc la fin du gruyère sur les pâtes sans sauce. Avant, on avait du l'air d'hameur où je fais un malheur. Demain, ça va être malheur, il n'y a plus de l'air d'hameur. On parle en ce moment partout du transfert du Brésilien au PSG pour 220 millions d'euros. 222 millions d'euros, pardon. Pas de problème de gruyère pour lui apparemment. Bref, passons à autre chose. Sans mauvais jeu de mots, j'en ai marre. Vous l'avez ou pas ?
Oui, oui, je l'ai.
C'est bon, vous l'avez ? Très bien, merci. Il n'y a pas d'applaudissements là. Merci, Lyot. On a eu aussi l'épisode Fillon, se retire pas. Et quand on a vu le nombre d'enfants qu'il avait, on a bien compris qu'il n'était pas du genre à se retirer. Voilà, ça c'est fait. Mm-hmm. Paris 2024, on y croit toujours. J'y crois tellement d'ailleurs que je me suis pété les phalanges. Le tube de l'été d'Espacito est une daube. Hollande nous manque. Trump, je vais être vulgaire, un petit zizi. Thomas Pesquet reste dans l'espace et arrête de nous faire chier. Hanouna revient vite de vacances. Et moi, je me rends compte que ce premier semestre n'était pas très folichon. Là, vous êtes en ébullition et vous attendez la blague. Bien beauf. Qui va clore cette mini-chronique. Pour être franc, j'ose pas. Certes, je suis fan de Bigard, mais là, franchement, j'assume pas, une heure de grande écoute. Mais là, je sens que dans vos regards, vous insistez. Et je ne sais quoi faire, là, je sais pas. Bon, bref. Ok, mettez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence si vous êtes sur l'autoroute. Sortez les enfants de la voiture, aucune crainte, l'autoroute est fluide à cette heure-ci. Cette chronique était plutôt classe et c'est dommage, nous allons retenir que la fin. C'est une femme qui est follement amoureuse de son mec.
Ouh là là.
Son mec, lui, est fan de Brigitte Bardot.
Ouais. Oh,
Elliot connaît peut-être la chute.
J'ai peur.
Et fan de Brigitte Bardot, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit je vais faire plaisir à mon mari, je vais me tatouer les initiales de Brigitte Bardot, qui sont BB. Elle va chez le tatoueur. Tatoueur, tatoue-moi B sur la fesse gauche, B sur la fesse droite. Elle rentre chez elle, elle montre le tatouage à son mari. Et son mari lui dit, c'est qui Bob ? C'est tout pour moi, merci.
Bonsoir Paris.
Salut
voilà.
Bob.
C'était Wesley.
Ça s'est fait. Merci. Et ben merci Wesley pour cette super chronique.
Poésie.
J'avais prévenu, hein, deux salles, deux ambiances. Ouais. J'avais prévenu.
On va encore changer d'ambiance. Radio Camping Paris, du lundi au jeudi, de 19h à 20h.
The Coolest Place in the Universe de Robert Robert sur Radio Campus Paris. Radio Camping Paris, c'est tout l'été du lundi au jeudi de 19h à 20h sur Radio Campus Paris. Alors avant de terminer cette émission, on a un invité spécial au téléphone. Serjan, m'entends-tu ?
Oui, oui, comment allez-vous ?
Très bien, et toi ?
Salut.
Ouais, merci.
Salut.
Alors je vous présente Serjan Sezgin, si je le dis bien, qui est animateur à Radio Campus Paris, puisqu'il présente l'émission Lion's Milk. Et il est aussi réalisateur d'un documentaire qui va être projeté dans 2 jours à la station Gare des Mines, qui s'appelle Nous Blue. Je le dis bien aussi, ça, on dit bien Nous Blue comme ça.
Exactement, c'est parfait. Ouais.
Et Nous Blue, en fait, du coup, c'est un documentaire sur un club de jazz qui porte le même nom à New York, dans East Village. C'est bien ça ?
Exactement, ouais.
Pourquoi tu as eu envie de parler de ce club de jazz et pourquoi tu as envie de le montrer comme ça au monde ?
En fait, ça tombait tellement bien parce que j'étudiais à l'époque à New York, le cinéma, et je suis, comme c'est assez clair, j'adore la musique, je suis un très, très grand passionné du jazz et je respecte tellement des espaces qui donnent la liberté aux musiciens pour qu'ils s'expriment leur musique. Et donc j'ai trouvé cet espace qui a été fondé et dirigé par un musicien aussi qui était moitié turc, moitié suédois. Et donc c'est comme ça aussi qu'on s'est mis en contact. Et on a tout de suite eu envie de faire un documentaire de cet espace. Ça tombait tellement bien, ça mélangeait le cinéma et la musique pour commencer un peu sur ce piste de cinéma, musique, ciné-concert, performance. C'était l'occasion pour nous.
Parce que du coup, ce documentaire, tu l'as fait aussi avec Ilan Ersayn, qui est le fondateur du club, c'est ça ?
Exactement.
Vous avez eu l'idée ensemble ?
Non, en fait, avec mon frère, qui est le producteur du film, on lui a approché avec l'idée. Il était tout de suite partant et il a dit « Ouais, pourquoi pas, très, très bonne idée. » Et il nous a donné toute la liberté dans l'espace et avec tous les musiciens. Il nous a mis en contact avec tous les musiciens pour faire l'interview, pour le filmer. Il était très cool, il nous a donné la liberté. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est vraiment donner l'espace pour nous de faire ce qu'on voulait, en fait. Donc, lui, il a vraiment... il a fait la curation de tous les soirs, de toute la musique qui se passait là-bas.
Toi, comme Ilan Ersayn, le fondateur de Nous Blue, tu étais aussi un Turc qui habitait à New York. C'est comme ça que vous vous êtes approché.
Exactement, ouais.
Wesley, il y avait une question pour toi.
Salut. Alors moi, j'ai regardé par bribes le documentaire. Et ouais. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une direction artistique qui est très marquée, limite très sombre, qui contraste même un petit peu avec le style de musique. Et tu parlais de liberté d'expression et c'est une vraie volonté de limite laisser beaucoup de place à la musique et très peu d'intervenants du coup au fil du documentaire.
Exactement, l'idée de départ c'était exactement ça, de vraiment laisser la musique s'exprimer parce que c'était ça à Nous Blue vraiment tous les soirs avec aucune introduction, vraiment la musique partait tout de suite avec les DJ, vraiment on avait tout de suite l'impression d'être dans un espace... en fait, une ambiance vraiment musicale et très peu explicatif. Donc, il n'y a pas de chaise, de table, d'une service. C'est vraiment que la musique, en fait. Et tout le monde est dans cet esprit là-bas.
Et du coup, c'est alors moi, je te cache pas, au début, quand je regardais le documentaire, c'était un peu perturbant. Pourquoi ? Parce que je savais pas exactement si je devais me positionner en tant que documentaire film. C'était moi c'est pas mon éducation musicale. Du coup, j'ai découvert un petit peu ce que c'était. C'est super intéressant, mais du coup, c'était voulu ou ce côté un petit peu pour perturber un petit peu le enfin comment on dit pour dire le téléspectateur. Non, le oui.
En fait, je pense que le spectateur. L'idée, c'était de vraiment respecter l'ambiance de ce club de l'idée en fait. C'est vraiment de ne pas donner une information que les gens avaient vraiment besoin. Parce que ce qui comptait, c'était vraiment l'expérience telle que ce soir, dans le moment, l'improvisation, sentir la musique, sentir tout le hasard qui se passe ce soir. Parce que chaque soir était tellement différent, même si c'est peut-être le même groupe de musique qui jouait. Et donc, c'est vraiment de respecter cet hasard, cette liberté de... vraiment laisser les choses se produire. Et donc, en fait, c'est un club de musique que les gens venaient et ils ne connaissaient pas bien du tout les groupes, les musiciens. Donc, c'était vraiment la liberté aux spectateurs pour expérimenter ça.
Tu as voulu retranscrire cette ambiance libre et expérimentale que tu avais retrouvée dans ce club. Il y a Jérémy qui est avec nous, notre invité, qui a une question pour toi.
Non, je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, je suis passionné de musique et de jazz notamment. J'ai pas vu malheureusement ton documentaire. J'ai très envie de le voir. Mais ça fait combien de temps que le club est ouvert? Enfin, ce club
ça
a été créé.
Ça a été fondé en 2002, donc ça fait maintenant 15 ans.
Oui, c'est un club assez récent.
Ouais, mais enfin, je suis resté à New York pendant une assez longue période et le nom me dit quelque chose, donc je me demande si j'y suis pas déjà allé en fait à l'époque.
Ouais, en fait, c'est très petit comme endroit, donc c'est pas un endroit que tout le monde connaît bien.
C'est où dans East Village?
C'est dans le Avenue C, entre le 4e et le 5e.
Je me demande si ça me dit quelque
chose. Mais maintenant,
c'est le rond-point, non?
Je crois que c'est à côté de l'épicerie.
C'est à côté d'une épicerie, c'est à gauche après l'épicerie. Deuxième question, pardon, on aborde tout style de jazz ou c'est vraiment, il y a un style
en
qui
fait,
prédomine?
On dit jazz, très bonne question. On dit jazz, mais c'est, ça ne donne pas vraiment les valeurs à toute la diversité de musique qui se passe dans le film. Parce qu'on commence avec un gypsy funk, après on passe très, très rapidement à free jazz, il y a de drum and bass dedans, il y a afro funk.
D'accord, donc il y a autant de groupes live que de DJ qui viennent mixer, les choses se mélangent, etc. Ouais, c'est super intéressant. Ouais, voilà, j'avais deux petites questions. Merci beaucoup. J'ai très envie de voir ton documentaire, en tout cas, maintenant. Donc,
oui, avec plaisir.
Je vais le voir. Voilà.
Là, il se dit, mais c'est quelle voix, ça? Faudrait écouter les podcasts. Hein.
Et toi, Serjan, comment t'en es venu à la réalisation? T'avais déjà fait des films avant?
En fait, non. Comme j'étudiais à l'époque, c'était vraiment le premier projet, tout de suite, pendant que je faisais mes études à NYU. Et donc, c'était vraiment pendant que je faisais mes études, on avait eu l'idée avec mon frère de tourner le film en même temps. Et donc, ouais, c'était la première expérience, autoproduit complètement. Mais après, quand je suis rentré en France, tu sais, le montage a duré 3 ans. Donc, quand même, venu en France, je continuais à monter le film. Et on a fini le film dans une boîte de post-prod où je travaillais à l'époque, qui s'appelle Film Factory. Donc c'est grâce à ces locaux, on a pu terminer le mixage et l'étalonnage.
Et le film Nublu a été projeté dans plusieurs festivals, je crois, non?
Non, en fait, comme le film vient d'être terminé, en fait, on a montré le film pour la première fois d'où je suis, en Turquie, Istanbul.
Istanbul, oui.
Le festival indépendant d'Istanbul en février. Et là, on commence vraiment à trouver les endroits, Paris, Londres et New York, c'est où on se focalise plus en plus. À Paris, peut-être il y a un autre festival qu'on est en contact, on entend des nouvelles. Et à New York, ça va être projeté en août, fin août, dans un festival qui s'appelle New York Film Jazz Festival. Et à Londres aussi, on est en contact avec d'autres communautés musicaux. Donc une fois c'est déclaré officiellement, on va bien sûr dire ça à tout le monde.
Et à part dans les festivals, on peut voir le film quelque part? Il y a où c'est pour l'instant uniquement en festival. Je me permets, excuse-moi, pardon.
Très bonne transition.
ce que je disais, ouais, à Paris, c'est possible qu'on va projeter un autre festival, mais comme c'est pas exactement annoncé encore, je peux pas dire, mais c'est possible qu'à Paris, il y aura une autre projection.
Et il y a quand même déjà une première projection dans 2 jours, il faut le dire.
Exactement, dans 2 jours, à la station Gardening. Ça va être en plein air, ça va être très intéressant, le film, de montrer dans ce contexte, parce que vraiment, c'est un espace très, très grand, très libre à être rempli comme le soir veut, je pense. Donc, ça va être intéressant de montrer le film là-bas et on va faire un DJ set aussi, moi et Anders, le fondateur du bar radio, le Mélétron. Il y a une open barbecue en même temps, juste avant. Ah, et voilà.
Promet une belle soirée.
Donc ça, c'est mercredi à la station Gare des Mines. Donc c'est vers la porte d'Aubervilliers, Rosa Park, tout ça, dans le nord-est parisien. Et c'est à quelle heure la projection?
La projection, ça va être vers 22h. Les portes, je pense, s'ouvrent à 19h30 avec les DJ, voilà, notre DJ set et le open barbecue. Et les gens sont invités à apporter leur viande et bien sûr les poulets végétariens aussi. J'espère qu'ils peuvent...
Il faut venir avec sa viande, ou j'ai mal compris. Non, pas du tout.
Si,
c'est ça, c'est ce que j'ai entendu.
Viande ou steak de soja.
Ça tombe bien, j'ai toujours des cuisses de poulet dans ma poche, moi.
Toujours.
Très
toujours.
Bien.
J'ai une côte de bœuf là, qui est prête.
Pensez bien à ramener votre viande, ou alors vos steaks de soja, bien évidemment, ou vos légumes si vous êtes végétarien. Voilà. Merci beaucoup, Serjan. On sera là dans 2 jours à la station Gare des Mines.
Merci. Félicitations
beaucoup. Bravo.
Radio Camping, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'on va continuer à parler de jazz sur Radio Campus Paris, puisque c'est Jazz & Co qu'on va retrouver tout de suite. Je remercie bien sûr toute mon équipe de ce soir, Elliot, Wesley, Jérémy. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Bonne soirée sur Radio Campus Paris. On se retrouve demain.
Bonsoir.